Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional, Ivre de Ivan Viripaev, pièce mise en scène par Ambre Caen, au Théâtre de Villefranche le 14 décembre. Pierre Rabhi, figure de l'agroécologie, n'est plus. Il était parmi nous le 7 décembre 2019, dans les Pierres Dorées, quelques extraits d'une discussion avec celui-ci. Calade, le journal. Nos aînés aiment parfois rappeler qu'ils se contentaient autrefois d'une simple clémentine en guise de cadeau de Noël. Extrait d'un article de Reporter. Le goût de ce fruit vernal a cependant changé depuis l'époque de leur enfance. C'est ce qu'a constaté une équipe de chercheurs de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. Depuis une quinzaine d'années, ils observent une diminution de l'acidité des clémentines. La cause ? Le réchauffement climatique. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs se sont penchés sur des mécanismes de la photosynthèse et la respiration de ce fruit, né de l'union d'une fleur mandarinier et d'oranger douce. La clémentine atteint maturité en automne, au moment où la quantité de lumière nécessaire à la photosynthèse baisse. Avec le réchauffement climatique, la température est de plus en plus élevée à cette période. L'équipe de scientifiques s'est aperçue que cela avait pour effet d'accélérer la respiration du fruit. Afin de compenser cette surconsommation d'énergie, la clémentine doit puiser dans ses réserves d'acide citrique et perdre son goût acidulé incomparable. Les chercheurs explorent plusieurs pistes pour que la saveur unique des clémentines survive au réchauffement climatique. Ils essaient entre autres de dénicher des variétés plus acides et tardives de clémentiniers. La mise en place de pratiques agricoles plus écologiques, comme l'enherbement des vergers, la fertilisation organique ou encore la réduction des apports d'eau d'irrigation, pourraient également, selon eux, favoriser le maintien de la qualité du fruit. L'enjeu est de permettre à la filière de s'adapter au changement climatique. Sans leur acidité distinctive, les clémentines de Corse pourraient perdre leur indication géographique protégée, IGP. Affaire à suivre. Ivre de Ivan Viripaev, mise en scène par Ambre Caen au Théâtre de Villefranche, le mardi 14 décembre à 20h. L'auteur a écrit cette pièce dans ce qui s'appelle le Ma, un argot russe interdit dans l'espace public par la loi, mais parlé par tous. C'est la langue de l'intime, de la transgression, là où le masque social tombe, nous dit Ambre Caen, traductrice et metteur en scène de la pièce. Ivre parle d'ivresse, ou plutôt parle à travers l'ivresse, de toute autre chose, à nous donner le vertige, comme nous l'explique sa metteur en scène, Ambre Caen.
Bah là, pour le moment, on se prépare à arriver. On a joué une semaine au Célestin et ça faisait très longtemps qu'on attendait ce moment-là puisqu'on a été reporté d'une année et ça faisait déjà 4 ans qu'on travaillait sur le projet. Donc là, il était plus que temps de rencontrer le public et là, on arrive le 14 décembre ici. Donc on a hâte
de tester le spectateur caladois. Alors j'ai vu quelque part que vous avez pour habitude d'avoir une écriture plateau. Donc d'abord on va peut-être expliquer ce que c'est que cette écriture plateau et que là justement vous vous attaquez peut-être pour la première fois vraiment à un texte d'auteur.
De théâtre, oui tout à fait. Alors l'écriture de plateau, il y a des milliards de façons de faire de l'écriture de plateau. La mienne était très simple, c'était que je partais de l'acteur, c'est-à-dire que je donnais un corpus de textes qui existait déjà avec des auteurs par acteur et un corpus de chansons. Puis je déterminais une créature, une figure, un costume, parce que le costume est très important pour moi. Le tout dans un espace, en fait, il y avait beaucoup de choses arbitraires qui étaient décidées en amont. C'est-à-dire que l'espace était décidé, l'implantation lumineuse aussi, et le son. C'est-à-dire que je créais une piste sonore fixe de la durée du spectacle que je décidais. Et on traversait ça avec les acteurs, et on essayait de voir comment toutes ces matières se rencontraient, se frottaient, cohabitaient, etc.
Et donc une direction un petit peu d'acteur un peu spécifique, on va dire.
Oui, en tout cas, oui,
parce dans que... Dans l'expérimentation, même presque, et de l'improvisation, peut-être.
Complètement, c'est-à-dire que, oui, complètement. L'improvisation, c'est pareil, c'est un mot très large, c'est-à-dire que dedans, il y a des choses qui peuvent être très, très dirigées dans les improvisations. Moi, je donne énormément de contraintes. Et donc, en fait, je divise le travail en deux parties. La journée où je fais des trainings avec les acteurs dans l'espace, là aussi avec leurs spécificités, et ensuite un espèce de travail de plateau tous les jours, vraiment en condition de représentation. C'est hyper important. J'ai perduré ce travail-là avec Yves, c'est-à-dire que même avec une écriture fixe, on a continué ça. C'est-à-dire que on travaille sous l'écriture de ce spectacle. Ce sont des tableaux, c'est écrit sous forme de tableaux. Et chaque tableau, c'était comme un mini-spectacle et on ouvrait au public tous les 5 jours.
On n'a plus le contact. Le contact avec l'essentiel, avec ce d'où on vient, avec ce sans quoi il nous est impossible de vivre. On n'a plus le contact avec la réalité, avec cette réalité réelle, avec cette réalité qui compose tout autour de nous, là.
Donc le premier jour où les acteurs arrivaient pour traverser leur tableau, ils arrivaient texte su, on faisait des trainings la journée, et dans l'après-midi, on partait en filage, c'est-à-dire que tout de suite, ils devaient être en représentation, en fait, et avec mes contraintes, etc. Et on improvise en lumière, on improvisait là, il y avait un musicien en live, donc du coup, ça m'a permis d'avoir aussi beaucoup plus de liberté sur le son et de travailler autrement. Et à partir de là, on a construit notre histoire.
Et qui donne donc une pièce de 2 heures, c'est ça, hein, je crois.
Oui, 2h10, ouais, c'est ça.
Pourquoi Ivre et pourquoi cet auteur ?
Alors, j'ai pas de réponse à pourquoi cet auteur. Je peux juste dire que ce texte, quand je l'ai lu, j'ai eu des sensations physiques assez fortes et je suis très intuitive. C'est pas du tout cérébral. Si j'avais anticipé les problèmes que j'allais avoir parce qu'il y a 14 acteurs et que c'est quasiment impossible de monter un spectacle au stade où j'en suis, et du coup, de toute l'énergie qu'il a fallu déployer pour que les gens me fassent confiance, pour qu'économiquement on arrive au bout, ça, c'était une vraie galère.
Très ambitieux, effectivement.
Oui, c'est
dans le métier aujourd'hui, ça se voit presque plus.
Ouais. Ça se voit presque plus, et je pense qu'il y a une grande forme d'inconscience de ma part, et je pense qu'il en faut pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais oui, c'est vraiment une sensation physique à la lecture où je me suis dit, ok, là, ça m'a fait du bien d'entendre ça dans ce que j'ai lu. J'ai senti une énergie folle, et je me reconnais beaucoup dans plein d'endroits de ce texte qui parle du rapport au monde, du rapport à la foi, mais d'une façon très, très libre. Absolument pas dogmatique et qui fait plaisir à ce qu'avec humour on puisse parler, oui, de connexion spirituelle ou autre, avec beaucoup d'autodérision et de liberté, en fait.
Vous avez eu besoin cependant d'aller voir, je crois, l'auteur, hein, c'est ça, en Russie,
oui, Jean-Luc, tout à fait. Je l'ai rencontré à Moscou parce que j'ai co-traduit la pièce avec Anna Ivanchik. C'est en fait, il écrit dans une langue qui est très spécifique, pas toutes ses pièces, mais cette pièce-là en particulier, c'est ce qu'on appelle le mat, qui est un argot russe interdit dans l'espace public. On l'entend jamais à la radio, dans les médias, etc. Sur les livres, il y a marqué interdit aux moins de 18 ans. C'est important de comprendre ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement transgressif dans le choix de cette langue, parce qu'elle est passible d'amende. Enfin, c'est vraiment quelque chose de, oui, qu'on n'a jamais entendu, en tout cas. Et en Russie, tout le monde la parle, cette langue. Il n'y a pas de classe sociale ni d'âge, c'est vraiment la langue de l'intime, et donc de la transgression. Et donc, c'est vraiment pas un hasard qu'il ait utilisé cette langue-là. Et je trouvais qu'il fallait que le texte français... C'est quasiment impossible de retranscrire cette chose-là, cette dichotomie de pensée qu'il y a et cette transgression-là. Mais tout de même, il fallait qu'il y ait quelque chose d'extrêmement organique et qu'il n'y ait pas de distance, qu'on ne se dise pas « c'est une expression un peu poétique ». Non, 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 il y a quelque chose de très, très brut, en fait, dans son expression.
Et toutes nos lois, toutes nos revendications, tout notre putain de libéralisme, toute notre putain de tolérance, toute notre politique débile, toutes les décisions qu'on prend, tout ça... C'est complètement détaché de la réalité. On accomplit tout ça sans ressentir le contact avec l'essentiel. En fait, l'essentiel, on sait même pas ce que c'est. On sait même pas ce que ça représente. On sait même pas de quoi c'est fait. Et toute cette liberté dont on parle tout le temps et qu'on essaye tous constamment d'atteindre. Mais quelle liberté ?
Ivre de Ivan Viripaev est traduit du russe par Ambre Kahn et Anna Ivanchik. La mise en scène est signée Ambre Kahn. Elle est également artiste associée du Théâtre de Villefranche. Le rendez-vous est pour le 14 décembre à 20h. Pierre Rabhi, figure de l'agroécologie, n'est plus. Il avait choisi une légende amérindienne pour illustrer sa philosophie. Le colibri a fait depuis bien des petits. Il était le 7 décembre 2019 invité dans les Pierres Dorées. Quelques extraits d'une discussion avec celui-ci.
Oh, j'aime pas qu'on m'appelle sage, parce que Je ne veux pas être sage. Il y a aussi des choses dans lesquelles je ne suis pas sage. Bien sûr, mon engagement de longue haleine, ça a été évidemment le rapport entre l'humanité, l'humain et la nature. Nous nous sommes installés comme paysans il y a à peu près une cinquantaine d'années en Ardèche du Sud pour nous rapprocher justement de la terre et de tout ce phénomène. Et on a appliqué l'agriculture écologique en évitant d'appliquer l'agriculture dite moderne avec les engrais chimiques, les pesticides, etc.
J'ai envie de commencer en fait cet entretien en me rappelant peut-être du petit garçon que vous étiez. Est-ce que on peut dire que votre prénom, votre nom Pierre Rabhi, derrière il y a tout de suite des valeurs qui viennent, hein, des images de valeurs qui viennent lorsque l'on dit Pierre Rabhi. Est-ce que quand vous étiez petit garçonnet, vous pensiez effectivement avoir cette force intérieure qui aujourd'hui a fait tout ce que vous réalisez?
Disons que mon destin, si on peut dire, est un peu singulier, parce que je suis né dans le sud de l'Algérie, dans la partie plutôt saharienne, au milieu, dans une oasis. Et il se trouve que dans ce lieu, bien sûr, on était colonisé par la France. Et dans ce lieu, les Français ont découvert de la houille, du charbon. Et il a fallu donc exploiter ce charbon. Et à ce moment-là, ça a bouleversé toutes nos structures sociales, parce que on a exhumé ce charbon. La population locale, une partie de la population locale sont devenues des mineurs, dont mon propre père aussi. Et c'est ainsi qu'il y a eu un chamboulement et un bouleversement de tout le système qu'on avait construit depuis des siècles, quoi. Oui. C'est ça une des caractéristiques du pays. Je suis né donc là, mais malheureusement orphelin de mère très tôt, avec un frère. Et mon père se pose des questions sur l'avenir. Parmi les émigrés français qui venaient chez nous, il y avait un couple, une institutrice et un ingénieur sans enfants, qui ont proposé à mon père de m'instruire, de me prendre un peu en charge. Et c'est comme ça que je suis passé de ma culture initiale, traditionnelle, carrément au cœur de la modernité avec mes parents, mes parents adoptifs.
Pour vous donner effectivement un avenir comme tout parent le souhaite, bien évidemment. Petit à petit, comment s'est construit votre parcours quand il vous est devenu évident peut-être de partager avec les autres?
Ça, c'est venu beaucoup plus tard, parce que dans un premier temps, c'était comment moi-même j'allais survivre, etc. Donc j'ai fait quelques études, mais je ne suis pas allé très loin, parce que ça s'est arrêté finalement au certificat d'études, plus une année de secondaire, et tout s'est arrêté là. Mes parents adoptifs sont allés vivre au nord, parce que là on est au sud, à Oran. Je les ai suivis et c'est à partir de là que les choses se sont organisées d'une toute autre manière. Et du coup, dans cet itinéraire, je me suis beaucoup intéressé aux philosophes, parce que je voulais comprendre un petit peu pourquoi il y a deux communautés qui ne se comprennent pas, qui l'une est musulmane, l'autre est chrétienne, cette difficulté de se retrouver dans une harmonie entre les deux, toutes ces scissions et tout ça. Et ça m'a amené à m'intéresser, d'abord je suis devenu chrétien, et puis ça m'a amené à m'intéresser aussi à la philosophie, pour essayer de comprendre pourquoi l'humanité est si divisée, pourquoi il y a tant de conflits, pourquoi il y a tant d'antagonismes, même religieux, etc. Et puis finalement, je me suis arrêté à Socrate qui disait « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et ma philosophie aujourd'hui, c'est que je ne sais rien.
Extrait d'une discussion avec Pierre Rabhi à l'occasion de sa venue dans les Pierres de Ré le 7 décembre 2019. Pierre Rabhi est décédé ce 4 décembre dernier. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.